Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner. Et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Alexandre Pro a le profil du coureur de fond. Gérer les urgences du moment, tout en maintenant le cap sur une vision de long terme, n'est pas un exercice aisé. Surtout lorsque vous faites grossir votre entreprise de plusieurs centaines de personnes chaque année et que vous vous attaquez à l'un des secteurs où les acteurs historiques pèsent autant sur l'économie. Conto, son entreprise qu'il a fondée il y a 7 ans, est une néobanque qui s'adresse aux professionnels. Avec 70 000 clients, il vient tout juste de réussir à convaincre un géant chinois, le groupe Tencent, d'emmener la plus grosse levée de fonds de l'histoire des fintechs tricolores. Avec 104 millions d'euros en poche, sa jeune entreprise peut envisager de multiples projets. Autant de pistes qui pourraient aussi la précipiter vers un échec et qui exigent donc une vigilance de tous les instants. Il me reçoit chez lui, perché dans le ciel parisien, et se prépare à une nouvelle année charnière pour Conto. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos, et vous écoutez Take Off. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Alexandre Pro. Alexandre, bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Paris. La première question que je pose à chaque fois aux personnes qui me reçoivent, c'est est-ce que vous avez une routine ? Donc, quelle est ta routine, toi, le matin ?
Alors, ma routine, elle est assez simple. Réveil à 7h30. Ensuite, je prends une douche. Je fais petit déjeuner, mes deux enfants. Et ensuite, j'emmène ma fille qui a 4 ans à l'école, qui est à 10 minutes à pied de la maison, avec un gros débat de savoir si je vais la prendre sur les épaules ou si elle va marcher toute seule. Souvent, elle gagne ce débat. Et donc, ce matin, effectivement, je l'ai emmenée avant qu'on se voit. Ensuite, je suis passé à la boulangerie acheter des croissants et des pains au chocolat. Et voilà.
Elle a quel âge ?
Elle a 4 ans.
Et tu me disais juste avant que tu pratiquais la course à pied. Est-ce que c'est quelque chose que tu inclus aussi dans ta routine ?
Alors malheureusement pas dans ma routine du matin, dans ma routine on va dire hebdomadaire. Donc j'essaie de courir au moins une fois le week-end, ça c'est assez facile. Et j'aimerais bien courir une deuxième fois la semaine. Il y a quelques années j'arrivais à le faire et j'ai réalisé que c'était quand même plus facile pour moi de faire ça quand j'avais un objectif un peu en tête. Et donc en 2015, 16, 17 je crois, 3 années de suite, j'ai couru le marathon de Paris. Et donc, c'était un bon moyen pour moi de me pousser à courir 2-3 fois par semaine. Et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de garder une forme physique, une bonne forme physique, d'arriver à être plus détendu aussi, je sais pas, de mieux dormir, etc. Et puis, dans certains cas, d'avoir les idées claires, d'avoir les idées plus claires, on va dire, après un petit jogging, où, je sais pas, on pense pas à grand chose et en même temps, on a un peu des moments un peu eureka où, que ce soit pour des trucs personnels ou quelquefois même pour le boulot, je me dis, est-ce qu'on fait ça, etc. Et puis en courant, j'ai un peu la réponse qui me vient en courant et donc ça peut être de temps en temps aussi, profitable, on va dire, pour le business.
Et est-ce que l'analogie sport-entrepreneuriat est un peu évidente, mais qu'est-ce que tu vois, toi ? En quoi ça t'aide vraiment ?
Le sport, tu
veux ? Le sport, oui, tout à fait.
Bah, je pense que ça m'aide pour deux raisons. La première raison, c'est un esprit sain dans un corps sain, et je pense que c'est plus facile d'avoir les idées claires, de prendre les bonnes décisions, de résister, on va dire, à la pression, éventuellement pas mal de boulot, s'il y a des journées ou des semaines un peu intenses. si on est en bonne forme physique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que comme je disais, ça m'arrive de temps en temps, pendant que je cours, d'avoir, voilà, d'avoir les idées plus claires sur certains éléments business. Parce qu'en courant, je pense qu'on se concentre, enfin, surtout si on court un peu vite, on se concentre peut-être sur l'essentiel, on voit mieux les choses, peut-être. Ça m'est arrivé quelques fois, et donc voilà, c'est assez.
Tu vas te relancer dans cette pratique ou pas?
J'aimerais bien. Il se trouve qu'il y a, donc, il y a un des trois marathons que j'ai fait, à Paris, j'ai fait 3h12. Et donc, j'aimerais bien, ce qui était déjà pas mal du tout, mais c'est pas très très loin de la barre mythique, on va dire, des 3h. Et donc, peut-être qu'un jour, j'aimerais bien m'entraîner un peu plus et essayer de faire ce fameux marathon en moins de 3h. Donc, peut-être 2020 ou 2021. Là, je suis malheureusement pas au mieux de ma forme, donc je suis pas sûr que si le prochain marathon de Paris, c'est sûr que ce serait pas le bon.
De toute façon, ils vont peut-être l'annuler.
Mais peut-être l'année prochaine, ils vont peut-être l'annuler, effectivement.
Ouais. Du coup, cette pratique du sport est essentielle, j'imagine, donc tu l'as bien expliqué. Notamment aujourd'hui, avec une pression supplémentaire, puisque Conto a levé 104 millions d'euros. Pour toi, donc ça met davantage de pression, j'imagine. Mais pour toi, est-ce que c'est d'abord une marque de succès? Est-ce que c'est une étape? Qu'est-ce que ça représente exactement?
Pour moi, c'est vraiment une étape, un peu comme au marathon, on aurait franchi, je sais pas, les 20 km ou les 30 km. Et donc, d'une certaine manière, le plus dur reste à venir. Pour moi, c'est plus une responsabilité, voire une pression supplémentaire. Responsabilité vis-à-vis des actionnaires qui nous ont fait confiance, responsabilité vis-à-vis de l'équipe. On a aujourd'hui 200 personnes dans l'équipe et donc c'est une grosse responsabilité de les mener, on va dire, un peu plus loin, un peu plus haut. Et puis responsabilité vis-à-vis de nos clients. On a 75 000 clients aujourd'hui et en lisant cette nouvelle, je suppose qu'ils se sont tous dit « Ah bah, on attend de Conto qu'ils fassent encore mieux, encore plus pour nous. » Et donc, on veut pas les décevoir et on veut au contraire leur apporter encore plus de satisfaction dans les années à venir. Donc, c'est encore une fois plutôt un peu plus de responsabilité et de pression. C'est comme ça qu'en tout cas que je le vis. J'ai bien conscience que c'est de l'argent qu'on doit, entre guillemets, investir et pas dépenser, quoi.
Justement, c'est quoi la nuance? C'est important parce que souvent, on se dit avec autant d'argent, finalement, on va pouvoir tenter des choses aussi, peut-être qu'on n'avait pas prévu ou faire d'autres choses. Mais qu'est-ce que ça change dans la dépense au quotidien?
Je pense que ce que ça change, c'est que ça permet quand même de prévoir à un peu plus long terme. Et donc, par définition, là, on a l'argent qu'il nous faut pour nous développer pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Enfin, bon. Et donc, on peut se dire, voilà, on a le plan de faire ça pendant les 6 prochains mois, puis ça pendant les 6 mois prochains, etc. Donc, ça apporte quand même de la sérénité et de la sérénité dans les discussions en équipe, et on est un peu moins dans l'urgence de se dire il faut absolument qu'on fasse ça dans les 3 prochaines semaines, du coup parlons pas de la suite, il faut absolument qu'on fasse ça. Et donc voilà, ça apporte un peu plus de vision, on va dire, moyen terme de ce qu'on fait, et donc c'est assez bénéfique de ce point de vue là
Moi, je me souviens de chez certains start-upers qui m'expliquaient que lors d'une grosse levée comme ça, ils célébraient ça au niveau de l'équipe. Est-ce que c'est quand même un moment important, et est-ce que vous avez célébré ça au sein de Conto, ou est-ce que c'est un jour comme les autres?
On a célébré ça un petit peu, mais franchement, de manière assez, assez légère. On a un all hands, donc une réunion de toute l'équipe mensuelle. Et la réunion qu'on a faite fin janvier avec toute l'équipe, donc on a annoncé ça juste avant que ce soit annoncé publiquement, et on a fait un petit apéro après avec toute l'équipe, et on a fêté ça, mais on était au bureau, enfin voilà, tout le monde
rien de fou,
rien de très fou. Objectivement, je pense que l'équipe s'en doutait, et donc ils étaient plutôt pas très surpris de l'annonce. Ils étaient plutôt bien surpris, je pense, du montant, et voilà, qui était un peu supérieur à ce qu'on avait en tête au début. Mais non, tout le monde, je pense, est conscient que c'est le, en gros, là, on a fait le plein de carburant pour la suite de l'aventure. Et donc, c'est voilà, on a les moyens de continuer notre projet et d'avoir l'ambition. Enfin, on a les moyens de notre ambition, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est on est au début. Si je prends l'analogie carburant et je sais pas et course ou machin. Enfin voilà, on est au début de la course. On a juste fait le plein dans la voiture ou dans le je sais pas quel engin. Et maintenant, faut qu'on fasse la course, quoi. Donc c'est pas du tout le moment de célébrer.
Alors comment t'expliques cette appétence des investisseurs en ce moment pour les fintechs? Revolut a levé 500 millions, là, ça a été annoncé hier, donc on est fin février 2020. Voilà, pourquoi t'expliques cet engouement absolument dingue pour les fintechs?
Ben, je pense qu'il y a probablement deux raisons. La première raison, c'est que le secteur financier est un très gros secteur. C'est 20-25% de l'économie. Quand on regarde... je sais pas, le CAC 40, les grands indices mondiaux, etc. Le secteur financier, banque, assurance, on va dire, c'est une grande composante de l'économie. Donc, des sociétés qui vont disrupter ou qui vont s'attaquer en tout cas à un gros secteur de l'économie, c'est normal qu'elles soient plutôt bien valorisées et qu'elles lèvent plutôt pas mal de fonds, parce que théoriquement, si on applique ce ratio de 20-25%, bah, les fintechs devraient lever 20-25% des capitaux qui sont investis dans des startups. Ce qui est à peu près le cas, je pense, peut-être un peu plus même. Et la deuxième raison, c'est de manière plus microéconomique. Quand on regarde les fintechs qui lèvent des fonds, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont beaucoup de clients et de plus en plus qui sont très contents. Et c'est quand même un bon moyen de valider qu'un service a du sens. Donc, tu mentionnes Revolut. Tout d'un coup, j'ai un petit doute, mais je crois qu'ils ont annoncé qu'ils avaient 10 millions de clients. Donc voilà, 10 millions de clients, c'est beaucoup. Quand on regarde, Boursorama, si je ne dis pas de bêtises, ils ont 1 million de clients. Ils ont 1 million de clients et je crois que Boursorama a été lancé, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais dans les années 2000, peut-être qu'il y a 15 ou 18 ans. Revolut, ils ont été lancés il y a 3 ans, 4 ans, 4 ans peut-être, ouais. Et en 4 ans, ils ont 10 millions de clients. Alors c'est dans plusieurs pays, c'est pas exactement comparable, etc. Mais c'est des vitesses d'acquisition client et de croissance et aussi quand même de satisfaction client qui sont très importantes. Et donc les investisseurs se disent que si une boîte a réussi à conquérir 10 millions de clients en 4 ans, c'est probablement qu'ils font des choses quand même très bien et que s'ils arrivent à continuer sur cette trajectoire, ça va devenir une très grosse entreprise. Et donc, je pense que les investisseurs sont rarement complètement fous. et donc, de savoir s'il y a des valorisations peut-être un peu trop élevées, ça, c'est possible. Et effectivement, il y a pas mal d'argent dans le système. Donc, c'est plutôt un moment où les entreprises... c'est plutôt un beau moment pour des entreprises de lever des fonds. En revanche, que Revolut, parce que tu parles de Revolut, soit quand même un énorme succès de entrepreneurial, ça, il n'y a pas de doute. Donc, je crois qu'ils ont annoncé que c'était valorisé 5 milliards et demi. Ouais. Franchement, est-ce que ça vaut 3, 4, 6 milliards? On ne sait pas très bien, mais c'est sûr que ça vaut des milliards et que c'est un très gros succès, quoi. Donc, après, on peut débattre longtemps de la valorisation exacte, mais je pense qu'il n'y a pas de doute que c'est un gros succès. Et je pense que dans un genre différent, sur un segment différent, c'est un peu une échelle encore un peu plus petite, mais c'est ce qu'on essaie de faire avec les PME. Et ce qui a convaincu nos investisseurs de nous suivre et d'investir 100 millions, c'est que il y a 3 ans, il n'y avait rien. Et qu'aujourd'hui, il y a 75 000 PME, qui est un segment où c'est beaucoup plus difficile en général d'acquérir les clients, qui ont rejoint Compto, que globalement, elles sont très contentes. On a un NPS, un Net Promoter Score de 73, comparé à 0 pour les banques traditionnelles. Donc, en gros, les banques traditionnelles, leurs clients en général... ne les recommande pas. Et donc voilà, et donc c'est ce potentiel qui fait que les investisseurs croient beaucoup dans les fintechs. Et puis je pense qu'il y a quand même quelques boîtes qui ont, on va dire, de la première génération, qui sont devenues des grosses boîtes et d'ailleurs rentables. Mmh. Donc, je ne sais pas si on pense, PayPal, c'est peut-être la première fintech. C'est une boîte qui vaut 100 milliards et qui gagne pas mal d'argent. Donc, voilà, donc les gens se disent ça peut devenir le prochain PayPal. Si on regarde TransferWise,
En Europe, ouais.
En Europe, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans et qui est aujourd'hui rentable. Et donc voilà, ils ont énormément de clients qui sont tous extrêmement satisfaits et qui est rentable. D'ailleurs, le fondateur et président de TransferWise vient d'investir dans Conto là, dans la série C justement.
D'accord. À titre individuel.
À titre ouais. personnel, tout à fait. Et donc voilà, donc on voit qu'il y a il y a probablement, et c'est sûrement pas toutes, c'est le jeu du capital risque, d'où le non risque, mais il y a sûrement quelques-unes de ces fintechs qui vont devenir des très grosses sociétés rentables et qui vont durer très longtemps. Quoi.
On parle d'Adyen, notamment en Europe, qui a réussi une intro en bourse et qui est sur le secteur, mais il y en a d'autres.
Le CFO d'Adyen ouais. a aussi investi dans la série C de Conto.
Donc, tu as à peu près tous les usual suspects.
Donc, on a...
Et tu mentionnais PayPal, ça m'intéresse de connaître un petit peu aussi l'histoire qui te lie à l'un de ses fondateurs, Peter Thiel, via son fonds Valor, c'est ça, qui a été un des premiers investisseurs dans Conto.
Tout à fait, donc Valar est un des deux premiers fonds qui a investi dans Conto avec Alven, fonds français qui est plutôt bien connu. Et en fait, ils ont investi effectivement tous les deux, donc Valar et Alven, dès notre levée d'amorçage, donc SEED, qu'on a faite à l'été 2016. Et ils ont réinvesti depuis, donc série A, série B, série C.
Et comment t'attires une star comme ça des fintech et de l'entrepreneuriat aux États-Unis quand t'es un jeune entrepreneur ici?
Il se trouve que j'étais dans mon MBA avec Tavet Inricus, donc le cofondateur de TransferWise. Et Tavet avait levé des fonds avec Valar. Et quand on a créé Conto, je lui ai demandé qui il conseillait de rencontrer pour lever des fonds pour Conto. Il m'a mis en relation donc avec les fondateurs de Valar. Et ça c'était vraiment tout début. Et 6 mois plus tard, ils ont donc investi dans la levée d'amorçage qu'on a faite avec Alven. Je pense que ce qui a fait qu'on a pu lever des fonds avec eux, c'est quand même notamment donc il y avait eu cette mise en relation par Tavet, mais aussi que Alven, donc fonds français, qui nous connaissaient déjà, mon associé Steve, Anavi et moi, parce qu'ils avaient investi dans notre précédente société, Smokio. Et donc le fait que Alven, VC local, enfin national, nous connaisse et investisse dans notre précédente boîte et réinvestisse dans notre nouvelle boîte, je pense que ça les a aussi rassurés, on va dire, sur le fait qu'on était digne de confiance, parce qu'ils ont investi effectivement au tout début, quand il y avait vraiment rien du tout, quoi.
Et tu as rencontré Peter Thiel?
Non, j'ai jamais rencontré Peter Thiel. Peter Thiel, il a cofondé Valar il y a, je sais pas très bien, 7-8 ans, mais depuis il est plus du tout opérationnel. Donc, il est encore investisseur dans le fonds, mais le fonds est géré par deux partenaires, James et Andrew, que je vois assez souvent. Je les vois d'ailleurs la semaine prochaine.
Est-ce que ces personnes-là t'aident? Parce que c'est vrai que souvent on dit l'argent, c'est pas ce qui manque. Il y en a surtout, il y en a pas mal aujourd'hui. Mais ce que les entrepreneurs cherchent, c'est de plus en plus des investisseurs capables de les accompagner au quotidien sur des tâches bien précises. Est-ce que eux le font et en quoi ils t'aident concrètement? Est-ce que tu te souviens d'un ou deux problèmes qu'ils auraient pour lesquels ils auraient aidé à résoudre?
Je pense que de manière un peu plus comment dire, high level, pour utiliser un bon anglicisme, je pense qu'ils nous ont aidés pour deux choses principales. La première, c'est le réseau, la mise en relation avec d'autres sociétés dans lesquelles ils ont investi, ou des investisseurs qu'ils connaissent. Par définition, comme ils sont américains, basés à New York, ils connaissent pas mal d'investisseurs américains, etc. Donc c'était intéressant de pouvoir, via eux ou grâce à eux, rencontrer d'autres investisseurs. Ou... Oui, investisseurs ou experts, enfin bref, leur réseau. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est que le fait qu'ils aient investi dans... donc, ils ont investi dans TransferWise, on en parlait. Ils ont aussi investi dans N26. Ils ont investi dans Xero. Mm-hmm. Et le fait que ils investissent dans ces sociétés qui ont énormément grandi, grossi et qui sont devenus ou qui sont en train de devenir des leaders dans sur leur segment, ça leur a permis de voir toutes les étapes de entre guillemets de A à pas Z, mais enfin je sais pas de A à je sais pas quoi, en tout cas du début à un stade où elles sont déjà bien grosses. Et donc c'est assez réconfortant et énergisant aussi de savoir que s'ils nous disent ah mais ça c'est pas grave franchement vous verrez plus tard etc, de dire ils ont vu déjà des boîtes qui ont fait ce qu'on essaye de faire et donc leur conseil leur point de vue est très intéressant. Et le fait que ils aient justement investi dans ces boîtes qui ont très bien réussi et qu'ils aient choisi d'investir et de réinvestir dans Conto, c'est aussi un espèce de d'encouragement je sais pas comment dire, d'une certaine manière ça peut décomplexer aussi en se disant on est encore petit, on est encore français, etc., etc. Mais en fait, ils vont nous aider, ils vont nous pousser, ils vont nous encourager à devenir des leaders de notre segment. Et donc ça c'est assez intéressant. Et puis le troisième point, qui est lié à celui-là, mais et c'est peut-être aussi lié au fait qu'il soit américain par rapport à peut-être des investisseurs plus européens ou français, c'est le fait de voir les choses en grand et de rêver grand, quoi. Et ça va de la levée de fonds, donc je crois que la série A où on avait levé 10 millions d'euros, je crois qu'à l'époque je sais plus, on s'était dit on va lever 5 millions, je sais plus exactement, mais on s'était dit on va lever moins. Ils nous avaient dit non mais franchement il faut voyez les choses en plus grand, sinon vous allez pas assez investir, vous allez pas aller assez vite, etc. Donc bref, ce genre de choses. Je me souviens qu'une fois, on avait pris nos premiers bureaux rue de Richelieu, à Paris, dans le deuxième, juste à côté de la bourse. Et je crois que ça faisait 370 mètres carrés exactement. Et on était déjà plutôt très contents parce que c'était nos premiers vrais bureaux à nous. Avant, on avait un peu squatté chez quelques startups amis qui nous avaient sous-loué des parties de leurs bureaux. Et ils sont venus pour un board meeting donc dans ces bureaux et ils sont arrivés, on leur avait dit on fera ça dans nos nouveaux bureaux, etc., ça on est très contents. Et puis ils sont arrivés, ils nous ont dit mais franchement c'est beaucoup trop petit, dans 6 mois vous allez devoir bouger, pourquoi ils l'ont pas dit, c'était en anglais, je sais plus exactement comment ils l'avaient dit, mais ils ont dit mais enfin en gros ça faisait vraiment vous êtes petits bras, pourquoi vous prenez des petits bureaux comme ça, vous voulez faire une petite boîte ou quoi, enfin. Et voilà, donc plutôt d'ailleurs un peu en rigolant et plutôt avec bienveillance, mais ce que je veux dire c'est que voilà, je pense qu'ils nous ont apporté ça, de voir les choses en grand et de se dire que pour faire quelque chose de grand il faut se donner les moyens, et les moyens c'est entre autres les moyens financiers mais aussi les moyens humains. Je me souviens, je sais plus exactement combien on était, mais on devait être je crois 80 ou 90 peut-être. Et ils nous ont dit, voilà, nous, on pense que quand vous êtes 80 ou 90, c'est le moment d'avoir un ou une directeur, en l'occurrence, c'est une femme, directrice juridique interne, parce que vous allez avoir de plus en plus de questions, de problématiques juridiques, et donc des avocats externes, c'est bien, mais ça ne va pas être suffisant à ce stade, etc. Et donc, comme ils ont accompagné, encore une fois, des sociétés qui ont connu ces genres de trajectoires, ils ont comme ça, de temps en temps, des conseils, plus sur les étapes qu'on franchit, comment on les franchit, les choses auxquelles faire attention. Mais ils ne sont pas du tout dans des... heureusement d'ailleurs, Ils sont pas du tout dans le détail, on va dire, opérationnel de est-ce qu'il faut faire votre forfait à 29 euros, à 27 ou à 32 est-ce qu'il faut avoir 5 personnes dans l'équipe marketing ou 12 Enfin, d'accord. Évidemment, ils sont pas dans ce genre de détails. Quoi.
D'accord. Et ces investisseurs que tu mentionnes, les deux gros nouveaux sont étrangers. Hein. Aujourd'hui, c'est Tencent et DST Global.
Tout à fait.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Tencent, c'est un très, très gros acteur asiatique, chinois, et DST Global est un des gros fonds anglo-saxon qui a investi dans Spotify, voilà, Facebook, je crois aussi, donc dans plein de belles boîtes. Pourquoi avoir choisi deux fonds étrangers avec tout l'argent disponible aujourd'hui et comment ça s'est passé ce process de levée? Est-ce que ça a été un peu, ça a bataillé un petit peu entre les fonds pour rentrer dans Conto?
Pourquoi avoir choisi des investisseurs étrangers? On n'a pas choisi des investisseurs étrangers, on a choisi le meilleur attelage et la meilleure solution possible selon nous. Et il se trouve que ils sont étrangers, mais disons que c'était pas forcément, c'était pas du tout un critère. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que donc les deux investisseurs que tu mentionnes, donc déjà la levée a été effectivement l'idée par Tencent et avec participation de DST, mais il y a aussi tous nos investisseurs historiques, donc en l'occurrence Valar et Alven. Qui ont remis au pot, si je puis dire, et puis deux investisseurs physiques, donc Ingo, le CFO d'Adyen, et Tavet, le fondateur de TransferWise, qui ont investi. Et donc, pour revenir sur Tencent et DST, ce qui est très intéressant pour nous, selon nous, c'est qu'ils ont investi les deux dans des très gros succès mondiaux de tech, mais aussi fintech en particulier. Ils ont investi dans, par exemple, dans Nubank, qui est la grosse néobanque brésilienne qui a, je crois, 12 millions de clients, qui est valorisée 10 milliards, qui, là, se lance au Mexique, qui a un très, très gros succès. Et donc, on se dit qu'il y a peut-être des bonnes choses à apprendre de ce qu'a fait Nubank, que ce soit sur... une offre, les produits, les services qu'ils offrent, même si c'est du B2C, il peut y avoir des choses intéressantes pour nous, ou bien sur des sujets, je sais pas, de lutte contre la fraude, d'organisation des équipes, enfin sur plein de sujets. Et donc on pense que c'est intéressant d'avoir éventuellement ce genre de conseils. Pareil, ils ont investi dans Chime, qui est la grande néobanque B2C aussi. Américaine, donc il y a pas mal de bonnes choses, je pense, qu'on va pouvoir apprendre et comprendre avec ces investisseurs. Et puis le fait que ce soit des investisseurs mondiaux, au sens ils investissent dans le monde entier, le fait qu'ils investissent dans Conto est un super signal, une super nouvelle, et notamment pour des partenariats, du recrutement, enfin pour pas mal de raisons, avoir un signal fort comme ça, c'est aussi une super nouvelle pour nous. Il y a un peu le risque, si on est, il y a des super investisseurs en France, mais si on est une entreprise française et qu'on lève que des fonds avec des investisseurs français, évidemment, si on a une ambition de devenir le leader européen de son secteur, voire même plus, et si on a l'ambition de pouvoir attirer des talents du monde entier chez soi, enfin dans son équipe, c'est plus difficile, quoi. Aujourd'hui, des talents, pour exagérer un peu le truc, mais des talents chinois qui se diraient c'est quoi les meilleures sociétés pour aller travailler en France? Je suppose que ça peut compter pour eux de se dire « Ah, Tencent a investi dans Conto, donc c'est super, je vais aller bosser chez Conto. » Ou bien des gens qui, des talents américains qui bossent aujourd'hui à San Francisco ou je ne sais pas où, pour se dire « Alors, j'aimerais habiter en Europe, quelles sont les bonnes startups pour aller travailler en Europe ?» ça va être un meilleur... ça va être du meilleur marketing, on va dire, pour nous, d'avoir Tencent et DST et peut-être Valar qui ont investi chez nous que si on n'avait que des investisseurs français, quoi.
Et sur la valorisation, est-ce qu'ils sont plus généreux? On sait ce qu'on dit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont assez agressifs, entre guillemets, sur les valorisations, ce qui est l'avantage des entrepreneurs. Est-ce que c'est vrai?
Alors, pour répondre à ta question, je vais peut-être revenir sur ta question d'avant qui était est-ce que les investisseurs se sont bataillés? Il se trouve que donc, nous, on a échangé avec une douzaine d'investisseurs et qui étaient en gros tous intéressés, et on a eu des offres fermes de à peu près la moitié d'entre eux, ferme et intéressante, on va dire, donc une demi-douzaine, et elles étaient toutes similaires, enfin, elles n'étaient pas très, très différentes, que ce soit en termes de valorisation ou de conditions, voilà. Et ce qui nous a fait choisir celle qui était donc celle avec Tencent et DST, c'était le fait que ce soit deux investisseurs mondiaux et que donc on pensait que le signal et ce qu'ils allaient pouvoir nous apporter en termes de vision globale et de ce qui avait bien marché dans d'autres régions, etc., pouvait être intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est que l'équilibre entre donc ces nouveaux investisseurs et nos investisseurs historiques nous paraissait aussi un point vraiment important. Et là, dans le deal qu'on a fait, c'est un bon équilibre. Qui, du coup, encore une fois, a permis à nos investisseurs historiques aussi de réinvestir à ce tour. Donc ça, c'était un point important pour nous. Mais on a eu d'autres... pour être clair, on a eu d'autres offres avec des valorisations similaires. C'était évidemment c'était un des critères importants. Évidemment, leur offre et la valorisation qu'ils ont offerte était tout à fait bonne, mais c'était pas ni le critère principal et c'était encore moins la seule offre de cet ordre de grandeur qu'on avait.
Est-ce que ça change quelque chose en termes d'ambition aussi? Tu le disais, ça peut t'aider à recruter des très hauts profils chinois ou américains. Est-ce que ça veut dire que Conto, à terme, a envie d'aller en Chine, a envie d'aller aux États-Unis? Est-ce que ça peut marcher dans ce sens-là?
Ça pourrait, franchement, à court terme, on est déjà, j'allais dire malheureusement, mais c'est plutôt une bonne chose, très occupé en Europe. Dans les quatre pays dans lesquels on est, il y a 15 millions de PME. Il n'y en a que 75 000 qui sont clientes, donc on est franchement au tout début du chemin. Mais oui, peut-être qu'un jour on ira un peu plus loin que ces quatre pays. Il y a encore pas mal de choses à faire en Europe, peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, États-Unis ou autres. Je pense que la Chine, c'est franchement pas du tout tout de suite. Faut jamais dire jamais, mais franchement c'est pas tout de suite. Bon, là en plus en ce moment c'est pas forcément la bonne période, mais en revanche c'est vrai que la barre, on va dire, est forcément un peu plus haute maintenant qu'on a fait cette levée de fonds avec ces investisseurs. Parce que quand on voit la liste des par exemple des boîtes dans lesquelles DST a investi, franchement je crois qu'ils ont dû investir dans 50 boîtes qui sont devenues des ou peut-être même plus, qui sont devenues des licornes, et sur ces 50 il y en a même peut-être 20 ou 25 qui sont devenues des décacornes, ou je sais pas comment on dit,
10 milliards de valo, c'est ça,
plus de 10 milliards de valo. C'est pas forcément une fin en soi, mais ça donne quand même une idée de la trajectoire et du potentiel des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Et donc, évidemment, on se dit qu'on aimerait bien être plutôt parmi celles-là que parmi celles qui sont pas, en tout cas d'un point de vue financier, qui sont pas un succès, quoi.
Et si tu reprends, si on revient un peu en arrière et que tu te replonges dans ton premier pitch, ta première présentation aux investisseurs, est-ce que tu avais déjà en tête cette vision, cette trajectoire, ou est-ce que ça a été modelé en fonction du parcours?
Franchement, la vision, elle a toujours été exactement la même. Elle n'a pas bougé d'un pouce. La seule chose qui a changé, c'est le nom.
C'était quoi le premier nom?
Le premier nom, c'était Finpal.
On voit l'affiliation.
Ouais, alors c'est marrant parce qu'on avait une opposition, ça s'appelle une opposition, où PayPal considérait qu'à l'époque on pouvait pas utiliser le nom Finpal. Et en fait, il se trouve qu'on a on a finalement le droit, enfin on a gagné entre guillemets le droit de quand même utiliser FinPal, mais entre temps on avait déjà changé pour Conto. Mm-hmm. Et donc voilà, mais je les ai montrés à quelqu'un de l'équipe il y a quelques jours. Donc j'ai retrouvé les slides de notre pitch de 2016, donc pour FinPal. Et franchement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que là on a beaucoup de chance entre guillemets, c'est que on a monté Conto avec Steve, donc mon associé, parce que on a vécu nous-mêmes exactement la frustration, la pain comme on dit en bon anglais, de la banque pour les PME sur notre précédente boîte, donc Smokio. Et pendant 3 ans, on a vu que c'était compliqué d'utiliser l'application mobile et web, compliqué de parler à notre conseiller bancaire parce qu'en fait elle était très rarement disponible, compliqué de comprendre, même très compliqué de comprendre les tarifs, et même en parlant à des gens, notre conseillère, etc., en fait elle n'arrivait pas vraiment à nous expliquer pourquoi on avait été facturé de 37,22 €, etc., etc. Et du coup tout ça mis bout à bout, c'était très énervant. Et donc on s'est dit, quand notre précédente société a été rachetée, on s'est dit c'est ça qu'on veut simplifier, c'est ça qu'on veut améliorer. Et voilà, et on a validé avec une 150 entretiens de fondateurs, CFO autour de nous, de petites, moyennes entreprises, pas forcément d'ailleurs que de l'écosystème, on va dire, tech. C'était aussi des entreprises plus traditionnelles, je sais pas, des architectes, etc. Et donc on a validé qu'il y avait vraiment un besoin d'améliorer tout ça, et donc c'est ce qu'on s'acharne à faire depuis maintenant 3 ans. Mais il n'y a pas eu du tout de, contrairement à certaines, enfin pas mal de boîtes, il n'y a pas eu du tout de pivot ou d'ajustement. On fait ce qu'on avait en tête de faire, qui est assez compliqué, c'est un parcours semé d'embûches, mais c'est assez clair, quoi.
Et tu te souviens de ceux qui t'auraient dit non, on n'y croit pas à l'époque? Ils étaient nombreux.
Alors c'est la question, c'est plutôt à l'inverse. Tout le monde me disait que c'était une idée de merde et que ça allait jamais marcher.
À ce point-là.
Tout le monde, bien sûr.
Et pourtant ça ne t'a pas arrêté, ni toi ni ton cofondateur.
Non, mais c'est vrai que tout le monde, franchement, enfin.
Tu te souviens pas d'un non, d'un refus vraiment qui t'aurait particulièrement marqué ou fait mal à ce moment-là, qui t'aurait mis au moins un peu de doute?
Forcément, enfin tous mettent un peu de doute, c'est-à-dire que les investisseurs, et puis même d'ailleurs les investisseurs qui investissent, c'est-à-dire que on en a rencontré plusieurs, dont Alven, donc qui a investi, mais les différents investisseurs qu'on a rencontrés, et dont Alven, avaient des questions qui, je pense, sont légitimes quand on a deux personnes en face de soi avec 10 slides et qui disent on va monter une banque pour PME. Bon, les questions sont légitimes, mais c'est vrai que tout le monde est plutôt à essayer de challenger les idées, le potentiel. Je pense que c'est aussi un espèce de jeu de rôle où on challenge les gens en face de soi pour voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont se décomposer? Est-ce qu'ils vont fondre en larmes? Ou est-ce qu'ils vont se dire non, regardez, ça va marcher parce que ta 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 ta. Et puis si ça marche pas comme ça, on trouvera un autre moyen, etc. Enfin, ils testent aussi quand même en live la on va dire la résilience, pour pas dire la robustesse ou la combativité d'une certaine manière de des équipes qu'ils ont en face d'eux, mais franchement tout le monde nous a dit que c'était une idée de merde, quoi. Une idée de merde, trop compliquée, trop long, réglementairement un enfer, financièrement un enfer, je sais pas quoi, humainement un enfer, enfin bref, que voilà,
que des mauvaises raisons.
Que des mauvaises, ouais, que tout ça était vraiment la pire idée, enfin du siècle, quoi. Franchement, je pense que j'essaie de repasser là dans ma tête. Je crois pas qu'il y ait une personne qui m'ait dit c'est vraiment une super idée. Hein. Franchement, je crois pas que je l'ai eu, ça.
Et toi aujourd'hui, t'as investi un petit peu en business angel ou pas?
Un petit peu.
Ouais. Parce que tu investis plutôt dans des idées comme ça qui peuvent paraître, si ce n'est saugrenu, en tout cas impossible, ou plutôt dans des choses qui paraissent certaines?
Non, j'ai investi dans quelques fintech et dans quelques. Franchement, j'ai pas beaucoup investi, principalement parce que j'ai pas du tout le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas du tout le temps. Je suis pas sûr d'ailleurs que, franchement, alors je vais pas dire que je suis bon entrepreneur, mais on va prendre cette hypothèse. Je suis pas sûr qu'un bon entrepreneur soit forcément un bon investisseur non plus. Donc voilà, donc à la fois une question de temps et de je pense que pour bien faire le truc, je pense que soit il faut avoir vraiment du temps, soit il vaut mieux essayer de le faire plus par via un fonds dans lequel on investit, et du coup on est on peut aussi aider des boîtes de ce du portefeuille du fonds, mais de manière un peu plus structurée. En tout cas pour l'instant je le fais un petit peu plutôt réseau et un peu amis ou amis d'amis, etc. Mais plutôt
sollicité là-dessus,
plutôt pour des montants limités et un nombre de boîtes assez limité. Je suis un peu sollicité, et puis évidemment un peu plus depuis quelques semaines et de cette nouvelle levée. À la fois, je pense, les gens font peut-être quelquefois un peu la ils croient que les 104 millions ils sont sur mon compte, mais en fait pas du tout. Donc peut-être qu'il y a un peu voilà, il y a un peu l'idée que comme on a levé pas mal d'argent, je vais pouvoir investir, alors qu'il y a pas, franchement il y a pas vraiment de lien de cause à effet. Et puis la deuxième raison évidemment, c'est que les gens se disent que ça veut dire que Conto a passé un stade et en tout cas, est arrivé à une étape assez importante, intéressante, et que par définition, j'ai dû rencontrer pas mal d'investisseurs, et donc les levées de fonds, c'est quelque chose que je commence un peu à maîtriser, etc. Voilà, et donc ils ont envie d'avoir des conseils là-dessus. Donc ouais, j'ai pas mal de, indépendamment d'investir ou pas, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour avoir des conseils sur des levées de fonds, comment bien se préparer, etc. J'ai eu tellement d'emails et d'appels techniques, je me suis dit que j'allais, il fallait vraiment que je fasse un petit document, un petit truc que je pourrais partager, voire même publier. C'est sur ma to-do pour les prochaines semaines.
Tu mentionnais tout à l'heure Smokio, c'était ta boîte précédente avec ton co-fondateur.
Ouais.
C'était pas non plus la première boîte. T'en as créé quand même quelques-unes, me semble-t-il.
Alors, Smokio, c'était la première boîte que j'avais, on va dire, vraiment co-fondée. De zéro, on va dire, donc avec Steve, effectivement. Et avant ça, j'avais cofondé une boîte qui s'appelait Wimdu, qui était financée par Rocket Internet et qui était une sorte d'Airbnb, donc de location d'appartements en ligne. Et en fait, j'avais créé, moi, toute la filiale française et toute l'équipe française de cette entreprise dont le siège était basé à Berlin. Et donc, j'étais fondateur de la filiale française, donc c'est pas exactement la même chose que si j'avais fondé la boîte de zéro. Mais je suis arrivé très tôt. Je crois que la boîte avait été créée en mars 2011 ou avril 2011, et moi j'ai rejoint en mai 2011, donc j'ai rejoint tout au début, et d'où le statut, on va dire, de cofondateur. Mais c'était un setup un peu différent. Et objectivement, j'avais beaucoup moins j'avais beaucoup moins de les mains libres et de liberté d'action que sur Smokio ou Conto, où là vraiment c'était notre boîte avec Steve, donc mon associé, à 50-50, et où on avait tout à faire, et on était un peu tout seul, quoi.
C'est devenu quoi, Smokio ?
Smokio, ça a été racheté en 2016, donc c'est pour ça qu'on a lancé Conto ensuite, par un grand groupe qui a notamment racheté toute la technologie qu'on avait créée et brevetée. On avait inventé, donc Smokio, c'était une cigarette électronique connectée qui permettait de suivre sa consommation de cigarettes électroniques et notamment sa consommation de nicotine sur son smartphone, avec des petits mécanismes et un peu de gamification pour bloquer sa cigarette électronique au bout de X milligrammes ou X bouffées dans la journée, de pouvoir faire un petit programme de sevrage pour au bout de quelques semaines ou quelques mois arrêter de vapoter. Mmh. Puisqu'en fait, on avait un objectif en deux temps. On avait le premier objectif, c'était de permettre à un fumeur de cigarette de passer à la cigarette électronique. Mmh. Donc, il y avait aussi un moyen de suivre sa consommation de cigarette dans l'application. Et puis la deuxième étape, c'était de se sevrer en nicotine, donc de réduire le nombre de bouffées, mais aussi la concentration en nicotine que les gens mettaient dans leur liquide, et potentiellement même in fine d'arrêter complètement la cigarette électronique. Et donc on a créé donc cette technologie, notamment la puce qui était embarquée sur la cigarette électronique. Mmh. Et toute cette technologie qui était assez innovante, c'est notamment toute cette partie là qui a été rachetée.
Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Parce que je regardais ton LinkedIn et je voyais que tu avais fait un stage chez Carrefour, notamment. Donc, je trouvais ça assez étonnant, mais...
J'ai fait un stage, franchement, c'était une des meilleures expériences professionnelles de ma vie. J'ai fait un stage chez Carrefour en Chine. J'étais à Shanghai en 2004. Donc, il y a un bon bout de temps. Mais c'était incroyable. Donc à l'époque, alors j'ai vu, j'étais un peu triste d'ailleurs quand j'ai vu ça. J'ai vu Carrefour, a une grosse période de croissance. Mmh. En Chine, et puis ensuite beaucoup moins bien. Et donc ils ont vendu récemment.
Ils sont sortis
de la Chine. Mais à l'époque, c'était vraiment l'Eldorado, en tout cas pour Carrefour. Et quand j'y étais, je me souviens, ils ouvraient un hypermarché par mois. Puis ensuite, c'est même passé, je crois, à deux par mois. Et donc moi j'étais au siège à Shanghai et j'étais assistant, ou je sais pas comment dire, de la personne qui dirigeait toute la partie électroménager, hi-fi, vidéo de Carrefour en Chine. Et j'avais fait en fait mon stage, j'avais dû notamment faire, j'avais fait deux choses. J'avais fait une partie qui était d'aller faire des relevés de prix. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'est très terrain, c'était assez intéressant. Prix et organisation de l'espace de vente, etc. Dans une cinquantaine de concurrents de Carrefour, dans je sais plus, cinq ou six villes chinoises. Donc en plus, j'avais pris un peu le train, l'avion et tout en Chine. Franchement, c'était assez... C'était assez amusant. Et puis, toute une partie de faire des guides d'achat pour les consommateurs, un peu sur le modèle des guides FNAC, qui permettent aux gens de sélectionner les produits, etc. Voilà, et donc là, on avait fait des guides que moi, je faisais en anglais, mais qui ensuite étaient traduits aussi en chinois. Mm-hmm. Je parle un petit peu chinois, mais pas du tout assez bien pour faire les guides en chinois. Mm-hmm. Et du coup, c'était par exemple, comment choisir mon micro-ondes? Alors, on peut, je sais pas quoi, il y avait la puissance, la taille du disque qui tourne, est-ce qu'il y a une option grill ou pas, je sais pas quoi. Enfin bref, on faisait des petits guides comme ça pour expliquer comment choisir son micro-ondes, comment choisir sa télévision, comment choisir, etc. Donc voilà, l'idée, c'était d'apporter des services supplémentaires aux consommateurs qui venaient chez Carrefour en Chine pour se différencier de la concurrence et avoir un meilleur service, quoi. Donc voilà, donc super expérience. Et puis à l'époque, je me souviens, ça m'avait marqué. Il y avait une stat que je trouvais incroyable, qui était que la moitié des grues du monde étaient dans la région de Shanghai.
Maintenant, c'est dans le Moyen-Orient, mais effectivement, à l'époque, c'était le cas.
Et c'était incroyable. Et donc, je me souviens très bien, j'habitais dans un petit appartement en colocation à côté de la place centrale de Shanghai qui s'appelle People Square, la place du peuple. Et juste à côté de chez nous, quand je suis arrivé, ils ont creusé un trou pour faire une nouvelle tour. Et toutes les semaines, il y avait un nouvel étage dans la tour, quoi. Et donc, je sais plus, je suis resté, je crois, 6 mois. Enfin, j'ai dû rester 30 semaines en Chine. Et en 30 semaines, ils ont construit une énorme tour, même peut-être plus qu'un étage par semaine. Enfin, je sais pas, il y a d'avoir 50 étages. Et ils ont fait la tour pendant que j'étais là-bas. Et donc, toutes les semaines, je voyais que ça montait. Je sais pas, je trouvais ça vraiment assez impressionnant.
Avec des échafaudages en bambou, à l'époque.
Échafaudages en bambou, ouais. Exactement.
Et du coup, je reprends la question, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu es parti aussi un peu dans le conseil, donc un peu éloigné, mais est-ce qu'il y a eu des déclics ou des rencontres qui t'ont permis de basculer vers l'entrepreneuriat, qui t'ont donné cette envie?
Alors clairement, moi j'ai fait le grand écart ou le, je sais pas comment dire, le truc à 180 degrés. Je suis parti effectivement au début dans une voie très, on va dire très loin de l'entrepreneuriat et très très risque averse, comme on dit. Qui était le conseil. Le conseil, on voit plein de choses, on fait plein de choses, mais on, d'une certaine manière, on s'engage pas beaucoup. On change tous les 3-4 mois de mission. On est bien payé. On s'occupe pas de problématiques forcément très opérationnelles, etc. Même si on conseille des clients, mais on le fait pas soi-même par définition. On est plus copilote, voire même au stand, et on parle par radio au pilote. Et je pense que donc j'ai fait ça pendant 3 ans chez McKinsey, et ensuite j'ai fait un MBA à l'INSEAD à Singapour, et j'avais déjà un peu en tête de changer, de me réorienter, mais je pense que pendant cette année, je me suis vraiment convaincu que j'avais pas envie de retourner dans l'univers feutré, j'allais dire, du conseil, et que j'avais envie de prendre un peu plus de risques, de tenter un truc un peu plus fou, entre guillemets. Voilà, et donc je me suis dit ça, mais ensuite passer à l'acte, c'était pas forcément évident. Donc j'ai fait 2-3 petites missions pour différentes boîtes, pour un peu tester des choses, comprendre des choses, etc. Notamment, j'avais été pendant un mois, j'avais fait une mission chez Groupon, sur des paiements, etc. Et puis j'ai ensuite rencontré donc les fondateurs de Rocket Internet, les fameux frères Samwer. Et puis ils m'ont parlé de plusieurs projets. Un des projets, c'était donc Wimdu, cette boîte de location d'appartements en ligne, qui m'a paru vraiment intéressant. En plus, je me disais que, évidemment, vu le potentiel touristique, vu la place de la France dans le tourisme mondial, c'était plutôt intéressant de faire un projet comme ça en France. Voilà, je me suis lancé là-dedans, ce qui était j'avais un peu un pied dans l'entrepreneuriat, parce que je créais la filiale française, on a recruté, je ne sais plus, 35 ou 40 personnes. C'était une vraie équipe, une vraie première expérience de manager, etc. Et puis en même temps, quand je suis arrivé, ils avaient déjà financé la boîte. Donc il n'y avait pas vraiment de risque de se lancer. J'étais franchement très correctement payé, etc., etc. Donc il y avait à la fois opérationnellement tout à faire, et il y avait en termes de sécurité, on va dire, mentale et financière, il y avait effectivement un filet. Donc c'était un peu à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, je me suis dit, bon, franchement, j'ai mis le doigt dedans, le pied dedans, j'ai envie maintenant de mettre les deux pieds. Et là, je pense que le déclic, ça a été la rencontre, ou plutôt les retrouvailles avec mon associé. En fait, on était au collège ensemble, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'était un peu perdu de vue, collège et lycée. On s'était un peu perdu de vue depuis. On se voyait de temps en temps des anniversaires d'amis communs, mais on ne se voyait pas énormément. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés aux 30 ans d'une amie. Je lui dis, ah, qu'est-ce que tu deviens, etc. Il me dit, ah, je suis. Donc lui, en fait, par hasard, il était chez Groupon, mais il est arrivé chez Groupon après que j'ai fait ma petite mission là d'un mois ou un mois et demi. Et il me dit, ah, je suis chez Groupon, je vais en partir, j'ai envie de monter ma boîte. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je trouve que j'étais parti depuis un mois ou deux, non, pas plus, trois mois. Et j'avais été faire une petite tournée d'immersion pendant 5 semaines à San Francisco et ailleurs, enfin ailleurs dans la Silicon Valley. Je me souviens, c'était juste au moment où Instagram venait de se faire racheter par Facebook 1 milliard, où tout le monde trouvait ça fou. Tout le monde se disait comment 11 mecs qui font des filtres de photos peuvent revendre leur boîte 1 milliard. Et bon, bah, il se trouve que ça a été probablement une très bonne acquisition de Facebook. Le truc fonctionne très bien encore aujourd'hui. Enfin, même surtout aujourd'hui, c'est devenu un vrai, voilà, une vraie entreprise, un vrai réseau social qui je pense, fonctionne très bien. Bref, et donc, je sais pas, je me. Quelques. Il y avait peut-être une cinquantaine ou une centaine de personnes dans la salle, donc c'était un petit. Relativement petit comité.
Tu les avais rencontrés, c'est ça ?
Ouais, il y avait bah, Kevin Systrom qui racontait son. Ça, je sais pas, je me disais, c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, bref. Et donc, pas. Évidemment, l'argent, la somme est incroyable, mais je me disais, je sais pas, l'aventure qu'à 11, ils font leur truc, ils développent une application qui est utilisée par plein de gens. Et ils sont partis de rien, il y a ce truc là, enfin ça je trouvais ça assez assez fascinant. Et du coup je me suis dit, bah j'ai vraiment envie de monter quelque chose. J'avais franchement conscience que je le ferais pas tout seul. À la fois parce que je suis pas vraiment quelqu'un de solitaire. Donc, l'idée de faire un truc tout seul dans mon coin, franchement, ça ne m'amuse pas tellement. Et aussi parce que je sentais que ce serait beaucoup plus facile pour moi de me lancer, un peu la folie de se lancer à deux, plus facile que la folie de faire le truc tout seul, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Steve, donc mon associé. On s'est dit, ah bah, enfin, ça je raccourcis un peu, mais parce que donc, on s'est revu à cet anniversaire donc, dont je parlais. On s'est dit, ah, on a envie de monter une boîte, ah, c'est marrant, on devrait échanger un peu nos idées, ce qu'on veut faire, etc. Pas forcément avec l'idée de bosser ensemble, mais plutôt de brainstormer. Et puis, de fil en aiguille, on a avancé ensemble. Il se trouve qu'on a dû passer peut-être 3-4 mois à travailler ensemble avant de se lancer sur donc cette idée de Smokio. Pendant ces 3-4 mois, on se voyait, je sais pas, 3-4 fois par semaine en échangeant sur des idées. Évidemment, on testait à la fois les idées, mais l'envie et le potentiel de bosser ensemble, parce que je pense que c'est quand même une des principales décisions qu'on a prises l'un et l'autre. Et donc ça c'était une période assez à la fois assez marrante, mais aussi un peu frustrante, parce que réfléchir à des idées, brainstormer, etc. Il y a un moment où en fait faut y aller, quoi. Et ce qui a été un bon catalyseur, ça a été le On a fait un tous les deux, on a fait un startup weekend. Donc, en gros, on était une cinquantaine. Je crois que c'était chez Microsoft à l'époque, dans leur, ils avaient un espèce de pas d'incubateur, mais ils avaient un espèce de petit studio rue du Sentier. Et donc, le principe du startup weekend, on est arrivé le vendredi à 16h. On était, je crois, 50 ou 60. On a constitué des petits groupes de 5-6. Donc, il se trouve que Steve et moi, on s'était mis ensemble et on a eu 3-4 personnes avec qui on s'est réunis. Et là, l'idée, c'était que on s'est réunis autour d'une idée qu'on avait appelée Corner Space. Et Corner Space, c'était le Airbnb du Commercial Space, donc pour faire des pop-up stores, etc. Et donc moi, avec notamment avec l'expérience que j'avais de Wimdo et d'Airbnb, voilà, on s'était dit, on voit bien comment faire, il y a sûrement un truc à faire parce qu'il y a des espaces, des restaurants, des cafés, des salons de coiffure, qui sont pas forcément utilisés tout le temps. Et quand ils sont fermés le lundi ou d'autres jours, on pourrait peut-être les utiliser pour faire d'autres choses, etc. Et donc on a développé une maquette de site en 48 heures. Donc les gens avec lesquels on s'était regroupés étaient designers, développeurs notamment, et donc on a créé cette maquette, on a pitché puisque c'est le principe de Startup Weekend, on a pitché ça le dimanche à 18h, et parmi les je crois 50 projets, en fait on a gagné le Startup Weekend. Et les lots du Startup Weekend, il y en avait 3, et tout d'un coup j'oublie le troisième. J'ai un petit doute, mais il y avait donc ce qu'on a gagné, c'était une heure de conseil avec Rafi Camber, qui était donc, à l'époque, il n'était pas partner chez Alven, mais qui était chez Alven, et qui en fait, in fine, celui qui a investi chez Smokio, puis Conto. Il y avait aussi une heure de conseil avec Oussama Amar, de The Family, qui était en train de monter The Family. Je crois que ça s'appelait même pas encore The Family. Enfin, je sais plus très bien, mais c'était
qui a fait ce podcast d'ailleurs aussi.
C'était vraiment au tout début. Et je crois qu'il y avait un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc voilà, et donc c'est ça, ça a été aussi un bon, évidemment, un moment assez important parce que ça nous a confirmé, ça nous a conforté qu'on se voyait bien bosser ensemble avec Steve, que a priori, quand on se mettait à faire un truc et qu'on se motivait et qu'on le pitchait, on arrivait à peu près à convaincre les gens puisque il se trouve qu'on avait gagné ce Startup Weekend. Et ça a été un peu un déclic. On s'est dit bon, franchement, on n'est pas plus con entre guillemets que les autres. Si on se met à fond, on devrait pouvoir arriver à faire un truc. Et donc arrêtons de nous prendre la tête et de nous poser plein de questions. On prend une idée, on le fait à fond et puis on verra bien. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé très rapidement après sur l'idée de Smokio. On a été voilà, on a développé l'entreprise. Ça s'est passé plutôt pas mal, pas aussi bien que ce qu'on espérait ou ce qu'on aurait pu rêver. Mais au final, on est très content de l'histoire. Et puis ensuite, ça a été la première étape d'une longue association, puisque maintenant, on est sur Conto, qui découle assez naturellement de tout ça, quoi.
Mais c'est facile de travailler au quotidien avec un ami, parce que ça peut être. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles?
Alors c'est facile, enfin oui, c'est plutôt facile. Enfin, en tout cas nous ça se passe plutôt très bien. J'ai pas trop d'autres expériences, mais nous ça se passe très bien. Alors est-ce que on est tout le temps d'accord? Non. Est-ce que s'engueule de temps en temps? Oui. Mais est-ce que ça se passe globalement très bien? Oui aussi. Je pense qu'on a une relation j'allais dire de travail, mais une relation globalement personnelle plutôt très saine. Si on est d'accord, on se le dit. Si on n'est pas d'accord, on se le dit et on.
Qui voilà, tranche?
On tranche ensemble. Enfin, on est. Franchement, on a. Je pense qu'on a. On fait complètement confiance à l'autre pour donner son avis sur ce qui est le meilleur pour la boîte et pour nous. Et donc, quand on n'est pas d'accord, on essaye vraiment de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Et à la fin, on finit toujours par être d'accord sans avoir claqué les portes ou... Enfin, je sais pas quoi.
Casser des assiettes.
ou casser des assiettes. Donc voilà. Et je pense qu'on est... Et franchement, on est je sais pas, 90% du temps, on est d'accord, quoi. Et les 10% restants, c'est plutôt des petits détails... qui peuvent cristalliser des désaccords, mais c'est plutôt des petits détails qui assez rapidement sont tranchés ou ajustés ou voilà. Enfin, donc il y a le mais c'est un point très très important parce qu'évidemment je pense que la première cause de mortalité, on va dire, d'une start-up ou d'une entreprise, c'est quand des associés s'entendent plus ou s'entendent pas bien, quoi. Pas forcément d'ailleurs sans qu'il y ait sans que ce soit dit ou que ce soit verbalisé, mais si ils sont pas, enfin c'est déjà tellement dur et tellement compliqué que si on n'est pas à fond dans le même sens et bien aligné, c'est sûr que ça peut pas marcher, quoi.
Et on arrive vers la fin de ce podcast. Deux questions qui traduisent un peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que vous avez fait des erreurs? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a quelques erreurs emblématiques sur les 4 ans de Conto qui te reviennent en tête? Et la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que tu redoutes le plus dans les années à venir pour l'avenir de cette entreprise?
Des erreurs, oui, on en a fait sûrement pas mal. J'ai pas d'erreur emblématique en tête. Je pense que les principales choses qu'on regrette, on va dire, ou qu'on paye, c'est souvent des choses liées à l'équipe, qui est quand même le plus important et le plus.
Des recrutements.
Et donc des recrutements qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, ou des gens qu'on a voulu recruter et on s'est dit c'est un peu trop tôt ou on n'a pas vraiment les moyens encore de se payer entre guillemets une personne de ce niveau-là ou de cette qualité-là ou de cette seniorité-là. Et en fait, on l'a regretté ou on l'a payé plus tard. Mais bon, c'est toujours plus facile après coup de voilà. Mais c'est plutôt ce genre de choses. Je pense que globalement, on a comme on a la chance d'avoir de suivre une idée et un objectif et une mission qui sont franchement très claires depuis le début. On n'a pas eu trop de grosses déconvenues. Je pense que non, clairement les erreurs c'est de des erreurs plus de management, de personnes peut-être qui étaient pas au bon rôle au bon moment, et tout est tellement lié à l'équipe que ça voilà. Et puis nous aussi moi j'ai jamais géré 200 personnes quoi. Donc on a des managers dans l'équipe qui apprennent leur rôle de manager, mais nous on apprend aussi notre rôle de fondateur, ou en tout cas notre rôle de fondateur il évolue. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on a forcément pas très bien faites, qu'on essaie de faire mieux. Je pense que motiver l'idée, gérer une équipe de 15 personnes comme on le faisait avec Smokio, ou de 200 comme on le fait aujourd'hui avec Onto, c'est très différent. Et donc il y a forcément aussi des choses qu'on fait pas bien. Il y a d'ailleurs probablement aussi des choses qu'on fait pas bien dont on n'est pas encore complètement conscient. Voilà. Et ta deuxième question
sur le risque.
Je pense que c'est un peu lié à cette question d'équipe. Moi, je pense que le principal risque pour Conto, c'est que, et on en a parlé d'ailleurs à notre dernier All Hands, donc avec toute l'équipe, c'est qu'on devienne un peu une grosse boîte au sens négatif du terme, et qui est exactement ce qu'on combat ou ce pourquoi on est là, quoi. Aujourd'hui, on est 200. Je pense qu'on va recruter une centaine de personnes dans les 12 prochains mois. On a des bureaux, c'est marrant, il y a pas mal de gens dans l'équipe qui se plaignent ou qui sont un peu attristés du fait que maintenant on ait des grands bureaux qui sont sur 6 étages et qu'on soit donc plus tout au même étage, sur un même plateau, et que donc évidemment c'est un peu plus dur ou c'est un peu moins évident de croiser les gens, etc. Et donc on a la chance d'avoir des très beaux bureaux qui sont assez grands, et il y avait on voulait être dans le centre de Paris avec des grands bureaux, et donc il n'y avait pas 150 options, et il n'y avait surtout aucune option avec tout le monde au même étage, quoi. Je pense que c'est il y a plein de petits éléments comme ça très concrets, très même logistiques auxquels il faut faire attention. On en a pas mal parlé avec Steve, mon associé. On veut vraiment mettre beaucoup d'énergie, et notamment Steve et moi, sur le fait de s'assurer qu'on a dit à l'équipe il y a quelques jours même, c'était qu'on voulait être big and strong et pas big and heavy. c'est un peu l'idée. Rester agile, rester efficace. Et on sait bien que pour ce qu'on veut faire et pour l'ambition qu'on a, on va devoir aussi quand même recruter, être plus nombreux dans l'équipe. Mais malgré ça, on veut garder une agilité, une souplesse, une créativité et une autonomie des différentes personnes et des différentes équipes qui soient fortes. Et c'est vrai que c'est un challenge, quoi.
Est-ce que t'as un modèle qui t'inspire, toi, à titre personnel?
Alors, on a un système, on va dire, interne qu'on a appelé de ContoWay, qui est pas mal inspiré du Lean, et qui permet, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et de continuer à développer, d'arriver à trouver un bon équilibre entre, ou de conjuguer, on va dire, un tempo et un tempo qui est partagé par toute l'équipe et qui est bien au rythme de ce que veulent nos clients, de ce qu'attendent nos clients, et à la fois et aussi la qualité de tout ce qu'on fait en interne. Et donc d'arriver à aller entre guillemets vite et bien. Et c'est ça évidemment le gros challenge. C'est assez facile d'aller vite si on fait pas très bien. C'est assez facile d'aller très lentement et de faire vraiment les choses bien. Ce qui est compliqué, c'est de faire les deux. Et donc nous, on a ce modèle qu'on a donc encore une fois inspiré du Lean, mais qu'on a décliné, qu'on a contoisé, si je puis dire, et qui donne à la fois des outils, des moyens, de l'autonomie, mais aussi de la responsabilité à chacune des personnes de l'équipe, et avec des éléments qui permettent de coordonner tout ce qu'on fait. Parce que ce qu'on veut à la fin, c'est que nos clients soient les plus fans possibles du service. Et en fait, les clients, ils ne voient pas les individus Conto, ils voient la forêt Conto, entre guillemets. Et donc, il faut que la personne qui fait la publicité Facebook, la personne qui va répondre au support client, la personne qui code l'application mobile, il faut que tous ces gens-là se parlent, parce qu'à la fin, c'est le même client. Et donc, si la pub qu'on lui a faite sur Facebook, elle n'est pas alignée avec la fonctionnalité, le ton, etc., qu'il va voir dans l'application, et pareil au support, si ça ne résonne pas bien tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est hyper important de bien avoir ces outils, ces mécanismes et aussi cet état d'esprit de chacune des personnes de l'équipe pour qu'on arrive à être bien, bien aligné, quoi.
D'accord. Écoute, on va continuer à suivre l'aventure avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu ce matin et à bientôt.
Merci Guillaume, à bientôt.
Vous venez d'écouter Takeoff, un podcast des Échos, et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des Échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.